Chapitre 19, où il est démontré une fois de plus que la fortune vient en dormant. Ce n'est que deux jours après son arrivée à Marseille, où il se promenait sous un nouveau déguisement, que Rouletabille découvrit le nouvel établissement de Marius Poupardin. Errant dans la rue Saint-Féréol, il fut arrêté par un léger échafaudage qui encombrait le trottoir. Des ouvriers recrépissaient une façade et un artiste peintre dessinait en lettres d'or sur une grande glace les mots de lumière à l'instar, premier salon de coiffure de la capitale phocéenne. Le nom de Marius Poupardin ne flamboyait pas sur l'enseigne encore absente, mais Rouletabille eut le pressentiment qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Il pénétra dans une salle déserte que les ouvriers venaient de quitter, et il perçut immédiatement des voix qui venaient d'une petite pièce au fond d'un corridor. Il entra dans le corridor et s'arrêta devant une porte aux vitres dépolies. Une voix qu'il connaissait bien le clouait là. C'était la voix de Madame Boulanger. « Ces 10 000 francs sont à vous, Poupardin, mais dites-moi toute la vérité. Vous étiez établi depuis 2 ans au coin de l'impasse La Roche. Vous connaissez Théodora Luigi, tout le quartier la connaissait. Elle ne se cachait pas quand elle venait au pavillon. Vous l'avez vue maintes fois l'an passé. Or, la femme qui est entrée chez vous le mardi du crime, oh, ne niez pas, votre commis qui était dans l'arrière-boutique et qui a entendu vos chuchotements pourrait vous donner un démenti. Cette femme dont la visite vous a fait riche, car c'est avec l'argent de cette femme que vous êtes venu vous installer ici. Cette femme, c'était Théodora Luigi. Et combien vous a-t-elle donné? Je vous donnerai davantage, moi. Mais il faut que vous parliez. J'ai juré de savoir la vérité, je la saurai. Vous savez qui je suis? Je suis la femme du malheureux que l'on a assassiné là-bas, peut-être sous vos yeux. Je remuerai ciel et terre pour le venger. Enfin, vous savez bien que celui que l'on a arrêté est innocent. Vous n'allez pas le laisser guillotiner. Oh, celui-là peut être tranquille, fit entendre la voix grasse de Poupardin. D'abord, il court, et puis, si on le rattrape, il sera acquitté. Poupardin, vous êtes un misérable. Marius Poupardin est un honnête homme, et il parlera. C'était Rouletabille qui venait de lancer cette dernière phrase. À l'apparition de ce personnage inattendu, Madame Boulanger se leva et Marius Poupardin, ramassant vivement les 10 000 francs qui se trouvaient sur la table, fit entendre à l'intrus les propos les plus désobligeants. Rouletabille n'était pas mis avec une extrême élégance. Le complet à ses informes qui le déguisaient ce matin-là, le chapeau melon un peu trop usagé qui le coiffait, le rejetait d'emblée, sinon parmi la classe pauvre, du moins dans celle des gens gênés. L'effet qu'il produisit n'en fut que plus grand quand, après avoir soigneusement fermé la porte, il sortit de sa poche 10 billets de 1 000 francs qu'il plaça sur la table à la place même qu'occupait tout à l'heure ce qui venait de disparaître dans la poche de Boupardin. « Encore ?» s'écria le barbier dans un ahurissement si prodigieux qu'en toute occasion on eût pu en rire. Mais Madame Boulanger retombait alors sur sa chaise pâle d'émotion en reconnaissant Rouletabille. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis que tous deux avaient été frappés par le même coup du destin. Rouletabille, après avoir voulu tuer cette femme qui avait si inconsciemment mené Ivana aux abîmes, alla lui serrer la main. Il venait de la trouver sur la même piste que lui, accomplissant la même besogne que lui, travaillant pour lui. « Oh mon Dieu !» gémit-elle. Rouletabille aussi était plus ému qu'on ne saurait le dire. Il se retourna vers Marius Poupardin, qui assistait à cette petite scène avec un air de plus en plus ahuri. « Oui, » dit Rouletabille, « encore 10 000 francs, et il y en aura d'autres, mais le moment est venu de parler, monsieur. Et il faut bien que vous le sachiez, de choisir entre la richesse qui semble en ce moment vous combler et les pires désagréments. Mais, monsieur, grogna Marius, je ne vous demande rien, ne crains pas vos menaces. Eh bien, acceptez tout et redoutez-les. Sur quoi, Rouletabille sortit sa carte appelée coupe-fil délivrée par la préfecture, et mettant son pouce sur les mots qui pouvaient révéler sa qualité de reporter, il ne laissa paraître que ceux qui pouvaient faire croire qu'il appartenait à la police. C'était un petit truc qui lui avait souvent servi et qui lui réussit une fois de plus. « Ah, monsieur de la police !» fit Poupardin, horriblement ennuyé. « Il fallait donc le dire !» À la vérité, on eût été perplexe à moins. Il avait vu ce policier serrer la main de Madame Boulanger. Il fallait croire qu'ils étaient d'accord. Et du coup, ils représentaient à eux deux une puissance que Poupardin ne tenait nullement à s'aliéner, surtout dans sa situation un peu exceptionnelle. D'autre part, fallait-il qu'il eût intérêt la police à ce qu'il dit la vérité pour la lui payer aussi cher? Bon, son parti fut vite pris, fini de faire l'imbécile. Il dirait tout ce qu'il savait. « Vous pouvez m'interroger, » dit-il à Rouletabille, en s'asseyant et en poussant un gros soupir. Vous avez vu sortir Théodora Luigi de la villa de l'impasse Laroche? Oh non, monsieur, non, non, je ne l'ai pas vu sortir. Alors, vous l'avez vu entrer? Oh non, monsieur, je ne l'ai pas vu entrer. Poupardin, gronda Rouletabille, vous êtes dans une affaire extraordinaire et des plus dangereuses pour vous personnellement. Rien peut vous perdre. Seule la vérité vous sauvera, je ne vous le répéterai pas. » Ce disant, au fond de sa poche, il remet ses clés comme s'il eût agité des menottes. Poupardin pâlit et balbutia. « Non, mais monsieur, je vous dis la vérité. Il faut que vous sachiez qu'il m'est arrivé une aventure inouïe. Vous me disiez tout à l'heure que j'étais dans une affaire extraordinaire. Oh, je vous crois. Figurez-vous, monsieur, madame, que je suis un pauvre diable, moi, qui rien n'a jamais réussi. Si j'ai pu ouvrir une boutique au coin de l'impasse Laroche, c'est qu'on me l'a donnée, quasi pour rien. Mais c'était encore trop cher pour les clients qui y venaient. J'avais le temps de me croiser les bras et de piquer mon petit somme, je vous le jure. C'est même la position que j'occupais ce mardi-là. » « Comment, la position que vous occupiez ?»« Oui, je sommeillais, les bras croisés, le bout sur le seuil de ma porte, l'épaule appuyée au mur, quand je fus tout à coup bousculé par une femme qui entrait en trombe dans ma boutique. » Cette femme, je l'avoue, oui, c'était Théodora Luigi. Enfin, poussèrent en même temps Madame Boulanger et Rouletabille. Quelle heure était-il ? Interrogea immédiatement ce dernier. Aux 5h30. Mais nous sommes bons, s'exclama Rouletabille. Continuez, Marias Poupartin. « Vous êtes très intéressant, mon ami. Oh, elle était comme folle, la figure toute pâle, les mains tremblantes. Et elle me dit à voix basse, « Dans une heure, vous aurez 10 000 francs. Mais vous me jurez que vous ne direz jamais que vous m'avez vu sortir du pavillon. » Ben, je lui jurais cela et elle disparut. Je pouvais d'autant plus lui jurer cela, expliqua Poupardin, qu'effectivement je ne l'avais vu sortir de rien du tout, et au fait, dans ce moment même, je ne vais pas contre mon serment, puisque je vous déclare que je ne l'ai pas vu sortir du pavillon. Très juste, votre conscience peut être en paix, Marius Poupardin, approuva Rouletabille en admirant la haute philosophie et la remarquable dialectique de cet humble Figaro. En somme, vous n'avez rien vu et rien entendu, pas même les coups de revolver. Non, monsieur, le pavillon trop loin, et puis si j'avais entendu, j'aurais sans doute vu sortir. Exact, enfin, vous avez tout de même vu Théodora Luigi, ce qui est bien quelque chose. Oui, monsieur, mais comme si elle tombait du ciel. Pour vous faire cadeau de 10 000 francs. Absolument, mais le plus beau se passa une heure après, quand je vis entrer chez moi un petit homme que je ne connaissais pas et qui me dit à l'oreille, après avoir fermé la porte, « Je viens de la part de Théodora Luigi. » Ah oui, oui, fis-je, pour les 10 000 francs. Non, monsieur, pour les 20 000, répliqua le petit homme. Seulement vous allez fermer votre boutique tout de suite et vous quitterez Paris demain, et vous irez vous installer au diable. Et il m'allongea 20 000 billets. Vous faisiez un beau rêve, fit Rouletabille. C'est-à-dire, monsieur, que je n'en étais pas encore revenu. Lorsque ce matin, dans le magasin que je suis en train de créer, à l'instar de quoi ? Interrogea le reporter, qui ne perdait pas une nuance du discours du Marseillais. Eh bien, mais à l'instar des plus célèbres salons de Paris, la rue Saint-Ferréol, monsieur, c'est notre rue de la paix. Alors vous disiez donc que ce matin... Lorsque ce matin je vis entrer madame qui, avant même de m'avoir dit son nom, déposait sur cette table 10 000 nouveaux billets de 1 000 francs. Et je suis arrivé à mon tour, renchérit Rouletabille, avec 10 000 autres. Eh bien, monsieur, c'est trop une fortune si inattendue qui m'est venue en dormant, c'est le cas de le dire. Elle commence à m'épouvanter, déclara Poupardin, qui de fait paraissait de plus en plus inquiet. L'homme vertueux défie le malheur, prononça Rouletabille. Sur quoi, l'ayant entrepris assez sévèrement, il lui fit comprendre qu'il avait tout à gagner, c'est-à-dire tout à garder, s'il savait tenir sa langue jusqu'au moment où la lui délirait. On lui demandait simplement, lors du procès, de venir en cour d'assises, répéter dans les termes mêmes dont il venait de se servir, qu'il n'avait pas vu Théodora Luigi le jour du drame à 5h30 entrer dans le pavillon, ni en sortir puisqu'il dormait lorsque celle-ci avait pénétré si brusquement chez lui. La curieuse aventure de Marius Poupardin ne devait point se terminer là. Dans ce drame affreux, elle apparaît comme un aveugle sourire du destin, qui par ailleurs frappait comme un sourd. Il n'est point rare de trouver dans les causes les plus tragiques de ces minutes, qui paraissent invraisemblables tant elles apportent de farces inattendues à deux pas de l'échafaud. J'en tracerai jusqu'au bout le récit, qui paraîtrait invraisemblable s'il n'avait pour lui la logique et l'histoire. Lire la Gazette des Tribunaux. Il n'y avait pas 10 minutes que Rouletabille et Madame Boulanger étaient sortis du magasin de la rue Saint-Ferréol que Poupardin voyait arriver ce petit homme qui lui avait remis à Paris le soir même du drame les premiers 20 000 francs de la part de Théodora Luigi, et qui n'était autre que Tamar, lequel, lui sortant, comme on dit, les vers du nez, n'eut point de peine à lui prouver que son dernier visiteur avait usurpé une fausse qualité en se disant de la police, et sut le convaincre, moyennant 20 autres billets de 1 000 francs, de l'urgente nécessité qu'il y avait pour lui, Poupardin, à quitter sans plus tarder Marseille et aller s'installer définitivement à Smyrne, où il avait des parents qu'il adorait. Dommage, aurait dit Poupardin à Tamar lors de ses adieux à la Canebière. Encore quelques semaines et je devenais millionnaire. Chapitre 20. Quelque chose qui brillait dans l'ombre. Chapitre 20. Quelque chose qui brillait dans l'ombre. Marius Poupardin partit donc pour d'autres cieux, mais s'il ne pouvait plus guère compter sur lui pour une déposition en cour d'assises, Rouletabille et Madame Boulanger n'en avaient pas moins tiré le principal, que Théodora Luigi s'était trouvé au pavillon à l'heure du drame. Il ne s'agissait plus que d'en trouver la preuve absolue, irréfutable. La lettre était une invite à venir, mais elle ne témoignait point que la courtisane fût venue. Quant à la trace de pas qui était passée inaperçue des magistrats, elle devait avoir maintenant complètement disparu, et Rouletabille n'en pouvait faire état. Cependant, il fallait agir et agir vite, car nous sentions rôder autour du reporter évadé quelque chose de sinistre, de pire que la prison. Madame Boulanger me confiait alors ses inquiétudes. Elle tremblait pour notre ami dont elle ne pouvait m'entretenir sans retenir ses larmes. Le moment était venu de nous résoudre aux mesures les plus graves. Nous nous réunîmes en secret chez V, professeur au Collège de France, ami de Thérèse, et là, il fut décidé que l'on poursuivrait Théodora au bout du monde, mais qu'on l'amènerait coûte que coûte devant ses juges. En dépit de ce que je pus dire, le plan de Rouletabille et de Madame Boulanger triomphait. Thérèse mettait à la disposition de Rouletabille sa fortune. Or, la veille du jour où Rouletabille devait franchir la frontière pour commencer sa campagne contre l'ami de Parapapoulos, il se passa un événement décisif. Rouletabille, sur un mot que lui dit Madame Boulanger, avait voulu revoir une dernière fois la petite maison de Passy. Sur sa prière, j'y retournais, en amenant avec moi un premier clerc d'avoué de mes amis, qui pouvait nous servir de témoin. De son côté, Madame Boulanger avait amené le professeur V. À 2 heures du matin, alors que la police croyait déjà Rouletabille à l'étranger, ce qui nous donna quelques heures de sécurité, nous nous trouvâmes tous réunis dans la salle à manger du premier étage du pavillon. Dans ce lieu de mort où chacun d'eux avait perdu ce qu'il avait de plus cher au monde, Rouletabille et Thérèse se regardèrent comme des ombres de vivants qui visitent les enfers. Et puis, Rouletabille sembla nous oublier, tout entier à son étrange besogne. Nous le suivîmes en silence, le cœur étouffant d'une singulière angoisse, comme ces personnes qui se laissent guider par les gestes de l'au-delà, du spirit ou du somnambule. Nous descendîmes avec lui jusque dans le sous-sol, jusque dans la cuisine, qui servait aussi d'office. Apparemment, il sembla n'y rien avoir découvert, mais moi, qui avais l'habitude de Rouletabille, j'avais surpris son regard qui avait fixé un dixième de seconde un alignement de verre sans pied dans un buffet dont j'avais inconsciemment ouvert la porte. Je restais dans cette cuisine quand tout le monde fut remonté comme si le regard de Rouletabille m'y avait fixé. Cependant, je n'aperçus rien qui fût capable de retenir mon attention, à moins que ce ne fût ce verre, qui était bien dans sa place et dans l'alignement de la rangée, mais qui n'était point retourné comme les autres, c'est-à-dire le fond en haut, les bords sur la planchette. Seul, il avait son fond sur la planchette et ses bords en haut. Bon, y avait-il quelque conclusion à tirer de cela ? C'était bien possible, mais je n'eus point le temps de m'y attarder, car j'entendais là-haut un remuement et un murmure de voix insolites. J'arrivais dans le vestibule, alors que le professeur V, que mon premier clerc d'avoué et que Madame Boulanger entouraient Rouletabille, qui venait de faire une découverte d'importance. Il tenait dans la main une sorte d'anneau d'esclavage qu'il venait de ramasser entre deux dalles disjointes en bas de la grille de fer forgé de l'escalier. C'était un de ces bijoux comme quelques dames emportent à la cheville. Un double cercle en forme de serpent formant ressort et qui avait pu très bien se détendre et se détacher pour peu qu'il eût été accroché par quelque aspérité de la grille de l'escalier dans le mouvement brusque d'une personne qui descend rapidement et qui a hâte de fuir, expliquait Rouletabille d'une voix singulièrement calme, alors que nous l'entourions de notre fièvre, car cet anneau d'esclave en forme de serpent, nous en reconnaissions la tête de diamant et les yeux de rubis. Madame Boulanger en défaillait, moi, j'en tremblais de joie. Rouletabille, lui, continuait de tenir d'une main ferme ce joyau qui le sauvait. Remercions le ciel, dit-il à Madame Boulanger, d'être venus ici par ce clair de lune. Dès l'ouverture de la porte du vestibule, j'ai vu quelque chose qui brillait dans l'ombre. Oh, et maintenant allons-nous-en, je n'ai plus rien à faire ici. Avec un joyau pareil, tu n'as plus qu'à te rendre chez le juge, fis-je, et tout est terminé. Il me regarda de cet air qu'ont facilement les êtres supérieurs quand ils considèrent un pauvre d'esprit. Le lendemain, il avait de nouveau disparu. Chapitre 21 Ténèbres. Les semaines se passèrent, qui furent pour moi comme un grand trou tout noir, dans lequel je ne cessais de tomber, tel un damné de la Divine Comédie. La dernière visite lunaire à la petite maison de Passy, au lieu de m'apporter cette quiétude parfaite et la fin des hypothèses à laquelle nous tendions si âprement, m'avait laissé sous une impression indéfinissable de terreur inexpliquée. Et pourquoi aussi Rouletabille avait-il disparu avec son joyau, avec ce quelque chose qui avait brillé dans l'ombre, avec ce commencement de lumière à la cheville de Teodora Luigi? Mais n'en savait-il pas assez? Qu'allait-il chercher au fond de l'Europe? Et pourquoi n'en revenait-il point? Car je fus 3 mois sans nouvelles. Madame Boulanger, moi, nous le crûmes mort. Les autres le voyaient seulement coupable et qu'il était parti quelque part là-bas, pour se faire oublier ici. Pendant ce temps, on avait clos l'instruction et on avait décidé de le juger par contumace. Nous atteignîmes ainsi la veille du procès et j'étais effondré sur mon dossier, quand la porte de mon cabinet s'ouvrit et je vis surgir un lacandeur formidable, aux joues rubescentes, aux yeux hors de la tête. « Il est là, il est revenu !»« Rouletabille est là ?»« Oui, monsieur !»« Il est à Paris, il sera demain à la cour d'assises !» Là-dessus, avant même que j'aie pu faire un geste, il m'avait quitté. Quand j'arrivais le lendemain de très bonne heure au palais, il y avait déjà une foule immense qui s'écrasait devant les grilles dans la galerie de l'île Horloge. On avait établi des barrières et un service d'ordre comme au plus grand jour. Tout ce monde-là savait que Rouletabille était revenu. Moi, je n'avais plus eu de ses nouvelles depuis la veille. Ce ne fut que quelques minutes avant l'ouverture de l'audience que l'on vint m'avertir à mon banc que Rouletabille s'était constitué prisonnier. Le bruit s'en répandit immédiatement dans le public et nous entendîmes la rumeur jusqu'au fond des corridors qui entourent la salle. Après les premières formalités, je vous laisse à penser quel fut le mouvement de toute la salle quand le président prononça ces mots « Faites entrer l'accusé !» Mouvement de curiosité, certes, mais d'immense sympathie, car Rouletabille, comme grand reporter, était adoré du public et, chez moi, d'inexprimable angoisse. Il entra. Sa bonne figure était pâle et sévère. Ses yeux allèrent à moi immédiatement. Je lui tendis les mains et il me les prit avec effusion. Notre émotion parut gagner toute la salle. Ah, en vérité, le procès s'ouvrait dans une admirable atmosphère. Tu as préparé mon dossier, lui dis-je, passe-le-moi. Il secoua la tête. Mais pour ma plaidoirie. Oh, Saint-Clair, bon, j'espère bien que tu n'auras pas à plaider. Et ce fut tout. Ce fut tout pour moi et pour les autres. Après avoir répondu aux questions banales d'identité que lui posa d'abord le président, il déclara à toute autre question qu'il n'avait plus rien à dire pour le moment. Avec un entêtement effrayant, il se refusa à entrer en conversation avec le président, pas plus qu'avec l'avocat général du reste. À tous les dires, à toutes les accusations, à toutes ses demandes d'explications, il opposa le mutisme le plus absolu. J'en étais malade. Je le suppliais de mettre fin à une attitude qui retournait tout le monde contre lui, le président, la cour, le jury et même le public. À la fin, exaspéré de ce mutisme qui était comme la forme la plus haïssable d'un orgueil insolent, le président s'écria « Si c'est pour nous dire tout cela que vous êtes revenu, vous constituez prisonnier, vous pouviez rester où vous étiez. C'est comme si nous allions vous juger par contumace. » C'est tout juste, si le président ne fut pas applaudi, en tout cas, une immense rumeur lui donna raison. Mon ami se perdait. J'étais effondré. Quant à Rouletabille, il laissa sa tête retomber sur ses bras appuyés à la barre des accusés, et bientôt nous pûmes croire qu'il dormait. Chapitre 22. La foudre. Alors l'affaire alla vite. Les témoins de l'accusation défilèrent rapidement à la barre. Puis ce furent les témoins de la défense. Dans les conditions où s'engageait pour moi cet étrange procès, j'avais à tout hasard fait venir Madame Boulanger et les témoins de notre nuit d'enquête à Passy. Quelle sensation quand Thérèse Boulanger parut! La haute figure de cette femme était aussi célèbre que celle de son mari. Nul n'ignorait la part admirable qu'elle avait prise à ses travaux et le secours merveilleux que Roland Boulanger avait trouvé auprès d'elle dans les moments difficiles de sa vie de savant, jalousé des confrères, détesté des officiels. Personne n'ignorait non plus le sentiment d'abnégation et quasi de sainteté avec lequel elle avait souffert les pires égards conjugaux d'un homme qui ne se refusait aucune fantaisie. Quand elle s'avança à la barre dans ses voiles de deuil, Ce fut dans la salle comme un immense gémissement. Elle était belle encore, avec une pâleur lumineuse, divine. Les tempes, cependant, avaient blanchi. Les lèvres avaient pâli, au coin des yeux, à la naissance du nez, les douleurs avaient tracé le sillon de leurs larmes secrètes. Le geste avec lequel elle jura de dire « la vérité, toute la vérité » fut d'une beauté auguste. Elle avait tourné la tête du côté de Rouletabille, qui, lui, n'avait pas encore levé la sienne et restait enfermé dans ses bras. Et tout de suite, elle proclama sa conviction de l'innocence de l'accusé et sortit au grand émoi de l'avocat général et pour la stupéfaction du public le nom de Teodora Luigi. Quand Rouletabille quitta le mardi du drame la maison de Passy, déclara-t-elle solennellement, les deux personnes qui s'y trouvaient étaient encore vivantes. Une demi-heure plus tard, quand Teodora Luigi, qui vint après lui, en sortit, elles étaient mortes. Là-dessus, l'avocat général s'était levé. « Oh, c'est la première fois, s'écria-t-il, que nous entendons prononcer ce nom dans cette affaire. » Nous avons trop de respect pour la douleur de Madame Roland Boulanger pour ne point comprendre les sentiments qui l'animent si naturellement contre une femme. Monsieur l'avocat général, interrompit Thérèse, il ne s'agit point ici de mes sentiments. Il s'agit de la vérité. Je la porte même si elle gêne quelques-uns. Je la porte et je la prouve. « Prouvez donc, madame, » fit le président. « Messieurs, » fit alors Thérèse en sortant un papier de son sac, « voici une lettre trouvée par Rouletabille et qu'il me confia avant son départ pour l'étranger pour que je puisse m'en servir si, par hasard, on ne le revoyait pas. Cette lettre adressée par mon mari à Teodora Luigi lui donnait rendez-vous pour le mardi du crime à la maison de Passy, qu'elle connaissait si bien. Théodora était à ce moment au Havre. C'est là que Rouletabille a trouvé la lettre. Sans doute n'a-t-elle point répondu à mon mari comme celui-ci s'y attendait. Et mon mari, croyant que cette femme ne viendrait pas, avait offert à Ivana une collation qui n'avait pas été préparée pour elle, et cela j'en suis persuadé en tout honneur. Je n'ignorais rien du flirt sentimental et scientifique qui existait entre mon mari et Ivana, mais je n'ai jamais douté de cette dernière. Elle était audacieuse mais sûre d'elle, et elle m'eût pour rien au monde trahi ni mon amitié, ni surtout le seul être qu'elle aima d'amour, l'homme qui est sur ce banc d'infamie. On s'attendait à voir se redresser Rouletabille, je le poussai même du coude, mais il ne broncha pas. Son attitude continuait d'être déplorable. Oh, il n'est certes pas ce qui essayait de le sauver. Or, continua Madame Boulanger, on eut entendu une mouche voler, Teodora Luigi est venue, a trouvé sa place prise et a frappé. Pardon, cette lettre, l'huissier avait passé la lettre au président, cette lettre ne prouve point qu'elle soit venue, interrompit le président. Non, monsieur, mais il est une autre chose qui le prouve, c'est ceci. Et, puisant une seconde fois dans son sac, elle sortit l'anneau d'esclavage. C'est ce bijou qui ornait à l'ordinaire la cheville de Teodora Luigi, cet anneau qui s'est détaché dans la fuite de la coupable et que Rouletabille a retrouvé dans la petite maison de Passy devant des témoins que nous vous ferons entendre. Rouletabille m'avait confié cet anneau comme la lettre. Rumeur, l'huissier passe le bijou au président, la cour l'examine, puis l'avocat général, on a le plus grand mal à rétablir le silence. Serait-il prouvé, émit l'avocat général, que ce bijou est appartenu à Teodora Luigi? Il resterait à établir que Teodora Luigi, qui était venu souvent à la petite maison de Passy, l'aurait justement perdu ce jour-là. Il y a un homme qui a vu ce jour-là et à cette heure-là Teodora Luigi sortant de la petite maison de Passy. Cet homme, c'est le coiffeur dont la boutique était établie au coin de l'impasse La Roche. Mais il est probable que l'on redoutait sa déposition, car on a fait quitter à cet homme Paris d'abord, puis la France. Et l'on ne sait maintenant où il se trouve, interrogea le président. C'est tout à fait dommage, appuya l'avocat général, car jusqu'à maintenant, le témoin n'a fait que nous apporter une hypothèse, une simple hypothèse, et permettez-moi de le répéter, excusable de la part de Madame Boulanger, mais tout à fait invraisemblable pour qui veut bien réfléchir de sang-froid. C'est alors que l'on vit se lever Rouletabille, et l'on fut étonné de l'entendre parler. « Pardon, monsieur l'avocat général, fit-il d'un air assez détaché, d'un air peu sympathique assurément. Pardon, mais il y a quelqu'un qui pourrait vous dire bien mieux que ce monsieur Poupardin lui-même. C'est ainsi que se nomme le coiffeur dont vient de parler Madame Boulanger. Ce que Teodora Luigi a fait ce jour-là, et à cette heure-là. Si elle est venue à Passy et si elle a pénétré dans la villa La Roche. Et qui donc? Mais, monsieur l'avocat général, c'est Teodora Luigi elle-même. Sans doute, admit l'avocat général avec un sourire. Mais qui pourrait nous dire où est Teodora Luigi? Cette heure-ci, prononça Rouletabille de son air détaché et insupportable, elle doit entrer dans la galerie de Harley avec mon ami Lacandeur. Quel mouvement dans l'auditoire et chez les juges! Et moi-même, je ne savais plus où j'en étais. Le président donna des ordres à voix basse à l'huissier. Mais celui-ci n'eut pas plutôt franchi la porte des témoins qu'il rentrait en disant « Madame Teodora Luigi est ici. Faites-la entrer. » Elle entra. Et il y eut, quand elle se montra, un silence terrible, comme sur la place de la Roquette jadis, quand s'ouvraient les portes de la prison devant le condamné à mort. Les derniers incidents avaient retourné l'assistance. Maintenant, on était avec Madame Boulanger contre cette femme qui avait une réputation de désastre et de ruine. Si tout le monde ne croyait pas encore que c'était elle qui avait tué, tout le monde l'espérait. L'audace avec laquelle elle se présentait, plus odieuse encore. On voyait bien que c'était une femme capable de tout. Cependant, elle n'avait jamais été aussi belle. Elle s'avança dans les longs plis d'un manteau violet, avec la démarche d'une reine de tragédie. Elle ne regarda pas Madame Boulanger, qui, elle, ne la quittait point de ses yeux de flamme. Quel duel allait s'engager entre ces deux femmes! Mais encore là, on se trompait. Ce n'était point entre ces deux femmes qu'il allait avoir lieu. Mais il n'en fut pas moins terrible. Teodora prêta serment et commença de déposer avec la plus grande simplicité. « Je suis venu de loin, dit-elle, sur la prière de celui que vous accusez. Il paraît que je puis aider à en prouver son innocence. Toute dangereuse que soit la vérité pour moi, je me confie à lui et je la dirai tout entière. La voici. Ayant reçu une lettre de M. Roland Boulanger, qui me priait d'être le mardi dans la capitale, je quittai le Havre le lundi. Arrivé à Paris, je trouvai un mot qui me donnait rendez-vous à la petite maison de l'impasse La Roche vers 5 heures. Je ne pus m'y rendre qu'à 5 heures et demie. J'avais une clé de la porte du jardin qui donnait sur l'impasse. Je pénétrai dans le jardin et j'allais gravir le perron de la villa, quand j'entendis au-dessus de ma tête, au premier étage, des cris et des coups de revolver. Je m'enfuis aussitôt comme une folle, refermai la porte du jardin et me précipitai dans la boutique de Poupardin. Le coiffeur était sur sa porte et il avait certainement vu sortir de cette maison. Je ne savais quel drame venait de s'y passer. Je l'ai payé pour qu'il se tue et pour qu'il alla s'établir ailleurs. Ma conduite a peut-être été imprudente. En tout cas, je vous ai dit tout ce que je sais. Je ne vous ai rien caché. Le soir même, j'apprenais l'horrible crime, mais moi aussi j'ai pleuré. Je suis allé pleurer à l'étranger. Vous avez fui à l'étranger ! S'écria Madame Boulanger. Et maintenant, en vous croyant sûr de l'impunité, vous êtes venu nous braver ici. Mais reconnaissez-vous ceci ? Et, allant prendre elle-même le bijou d'entre les mains du président, elle présenta l'anneau d'esclavage à Teodora Luigi. Oui, fit Teodora, je le reconnais parfaitement. C'est un anneau d'esclavage que j'ai perdu dans la Villa Fleurie à Sainte-Adresse. Madame, répartit Thérèse avec une agitation qui semblait avoir gagné toute l'assistance, vous mentez. Cet anneau a été retrouvé dans la maison de Passy, ce qui prouve que vous y avez pénétré. Cet anneau, vous l'avez perdu en fuyant après avoir accompli votre ignoble forfait. Teodora Luigi était devenue soudain d'une pâleur de cire. « Mais par qui donc cet anneau a-t-il été trouvé ? » demanda-t-elle en ouvrant des yeux immenses. « Par Rouletabille ! » s'écria Madame Boulanger. Teodora se retourna vers l'accusée. « Oh, monsieur ! » dit-elle d'une voix douce. Vous aviez oublié de me dire ceci. Oui, je l'avais oublié, répliqua la voix éclatante de Rouletabille. Mais Madame Boulanger a oublié, elle, de vous dire que si je l'avais trouvé, c'est qu'elle l'y avait mis. Il y eut là un coup de stupeur dont Thérèse ne parut pas seule frappée. On ne comprenait plus. Quand Madame Boulanger put reprendre la parole, ce ne fut d'abord que pour laisser entendre quelques exclamations confuses. « Moi ? Mais que veut-il dire ? Mais il est fou ! » Ce fut comme une espèce de chavirement général, comme si le terrain eût subitement basculé sous les pieds de tous. On ne savait plus où se raccrocher. Seul, Rouletabille restait droit, hostile, au centre de ce chaos. Le président, qui sentait l'affaire lui filer entre les doigts comme une poignée d'eau, avait des gestes de noyé. Il demanda, comme s'il étouffait, Mais quelle preuve avez-vous de cette accusation inexcusable contre Madame Boulanger? Ben, je n'en ai point d'autre que celle-ci, répliqua Rouletabille. C'est que les deux premières fois que j'ai fait mon enquête dans la petite maison de Passy, la première fois devant le juge d'instruction, la seconde tout seul, je n'ai rien trouvé. Et que ce n'est que la troisième, en compagnie de Madame Boulanger, devant les témoins amenés par elle, que j'ai découvert l'anneau d'esclavage. Je vous jure, monsieur, que lorsque j'ai passé quelque part deux fois, il ne reste plus rien à découvrir. Oh, le malheureux! S'écria Madame Boulanger, le malheureux fou! Mais quel intérêt? Interrogea le président. Mais oui, quel intérêt aurais-je eu? Répéta Thérèse, comme à bout de tenir tête à de pareilles extravagances. Quel intérêt? Éclata Rouletabille. Mais je vais vous le dire, madame. Votre haine d'abord contre cette femme, et puis l'intérêt que vous aviez à tromper la justice, l'assassin, c'est vous! Chapitre 23. Le chaos. Mais il est fou! La mort de sa femme lui a fait perdre la raison! Ce cri désespéré poussé par Madame Boulanger fut comme l'expression du sentiment général. La même indignation qui soulevait cette femme d'une beauté sublime dans cette dernière étape de son martyre gonflait tous les cœurs, toutes les gorges. On criait avec elle. Quant à moi, je dévorais mes poings et je n'osais plus regarder Rouletabille. Mais lui, il avait gardé un calme effrayant au milieu de cette tempête qu'il déchaînait. Il réclama le silence comme s'il présidait les débats. On exigeait tout à l'heure que je parle, je voudrais bien maintenant que l'on m'entende. Et moi, je l'entendrai toujours, de cette petite voix sèche et dure qu'il prenait quelquefois quand au fond de lui-même il était exaspéré qu'on ne comprît pas aussi vite que lui. Je l'entendrai toujours nous rappeler les détails de sa première inspiration, celle qui lui était venue quand il avait découvert les pas de Teodora Luigi, qui allaient de la porte de l'impasse La Roche et qui revenait aussitôt sans avoir touché au pavillon, cependant que les pas d'Ivana quittaient par l'escalier de service le pavillon, allaient à la porte du terrain vague et revenaient tout de suite au pavillon. Là, des pas qui se sauvent et ici, des pas qui reviennent dans le même moment. Et ceux-là se sauvent devant quoi? Ceux-ci reviennent pourquoi? Qu'y avait-il entre eux? Il y avait un drame. Un drame qui faisait du bruit dans le pavillon. Un drame qui chassait Théodora Luigi et qui ramenait Ivana. Entre ces deux personnes, il y en avait donc eu d'autres, au moins deux, puisque toute idée de suicide devait être écartée. Deux autres qui constituaient le drame. Roland Boulanger et qui? Mais quelqu'un qui était déjà là quand Ivana venait de quitter Roland. Une personne qui savait, qui devait savoir qu'Ivana viendrait ce jour-là rejoindre Roland à la petite maison de Passy. Et par qui cette personne savait-elle cela? Par Ivana elle-même. Ici, quelques secondes. Rouletabille s'arrêta. Et quand il reprit, je vous prie de croire que sa voix n'était plus sèche. Ah, avec quelle émotion il parlait maintenant de sa femme. Messieurs, il faut que vous sachiez qui était Ivana. Comment parvenait-il à retenir ses sanglots? Maintenant, on pleurait pour lui. Je n'essaierai pas de reproduire les termes avec lesquels il retraça le caractère sacré de sa femme, le culte scientifique qu'elle avait voué à l'œuvre de Roman Boulanger, le dévouement avec lequel elle s'était prêtée au jeu dangereux pour tout autre que pour elle, auquel elle avait supplié de condescendre Madame Boulanger. Il s'agissait de sauver Roland de Théodora Luigi. Qui pourrait dire jusqu'où peut aller le rêve moitié mystique, moitié romantique d'une femme comme Ivana? Elle ne faisait rien que d'accord avec Madame Boulanger. Elle ne souriait au professeur qu'avec la permission de Madame Boulanger. Elle n'alla chez le docteur Charles que parce que Madame Boulanger l'y conduisit. Et elle ne se serait jamais allée une fois seule dans la petite maison de Passy si Madame Boulanger n'y fût venue elle-même. Messieurs, le lendemain de ce jour fatal, nous devions partir pour un long voyage. Le jeu terrible allait prendre fin, et depuis longtemps je l'avais exigé, j'en avais moi-même fixé le terme. Et avant ce dernier adieu, Roland Boulanger a dû supplier ma femme de lui accorder son premier, son dernier rendez-vous avec toutes les paroles de folie et toutes les menaces de suicide dont il était capable. Ivana s'est réfugiée dans le sein de Madame Boulanger. Que s'est-il passé entre ces deux femmes? Ivana a dû rêver de réconcilier ces deux êtres qui eussent dû s'adorer, rêver de laisser Roland dans les bras de Thérèse. Hélas, hélas, ne croyait-elle point avoir accompli son sublime et dangereux programme quand elle s'arrêtait soudain dans le jardin de cette maison qu'elle fuyait et qu'à ses oreilles épouvantées arrivait le bruit des détonations, le bruit que faisait le drame là-haut. Brave, généreuse, folle Ivana, tu courus au danger. Tu arrivas pour voir tomber sous les coups d'une femme outragée, peut-être dans son suprême espoir, pour voir tomber celui pour qui tu avais fait le sacrifice de notre repos et pour qui tu allais faire celui de ta vie. Car, comme tu voulais lui arracher sa proie, cette femme t'a frappé. Ah, cette évocation qui me parut celle d'un halluciné à ce que nous croyions être une imagination folle de son désespoir. Rouletabille ne parut plus se posséder, et nous ne pûmes que le plaindre en entendant proférer des accusations sans suite des mots qui n'étaient plus que des cris. Elle t'a frappé avec une joie sauvage, car cette femme qui disait t'aimer comme une sœur était atrocement jalouse de toi, plus encore qu'elle ne l'avait été de Théodora Luigi. Cette femme avait fait un rêve monstrueux, te faire tuer, te faire assassiner par Théodora Luigi, car c'est elle qui avait envoyé à Théodora Luigi cette lettre imitée de l'écriture de son mari pour la faire accourir à l'heure du rendez-vous à la petite maison de Passy. Et Théodora ne venant pas, Thérèse a eu sa morte, elle a eu ses morts quand même, car cette femme qui se disait tout amour et que l'on disait tout amour, était toute haine. Son mari, elle avait calculé sa perte, je dis bien calculé depuis longtemps. Messieurs, cette femme avait rêvé l'échafaud pour Roland Boulanger. C'était du délire. Madame Boulanger avait poussé un cri terrible et se trouvait mal. Le président suspendit la séance. Dernier chapitre 24, la lumière. Quant à moi, j'étais accablé, anéanti, plus qu'indigné. La fureur de Rouletabille allait de pair avec sa folie. Quand je pus prononcer un mot, j'essayais cependant de me faire entendre de lui, bien qu'il eût retrouvé soudain ce visage fermé et ses yeux lointains qui le mettaient à l'autre bout du monde. Mais tu n'oublies qu'une chose, c'est qu'à l'heure du crime, à 5h30, Madame Boulanger était avec moi, chez toi. Je n'attendrai point qu'elle s'en souvienne pour le dire ici. Croyez-vous qu'il me répondit? Il resta à l'autre bout du monde, sans plus se préoccuper de moi que si j'avais jamais existé. Un quart d'heure après, quand on reprit l'audience, Madame Boulanger se présenta à nous comme pétrifiée dans l'horreur que lui avait versée Rouletabille. La cavité de ses yeux était accrue, le double sillon de la douleur s'était encore élargi, lui tirant les joues. Sa beauté en un instant était détruite. Un grand sentiment de pitié l'entoura, car bien que l'on commençât à soupçonner qu'elle avait été beaucoup plus mêlée au drame qu'on en avait cru jusqu'alors, on ne pouvait ajouter foi aux divagations de Rouletabille. Le président tout d'abord admonesta celui-ci. Il lui rappela qu'il était sur ce banc moins pour accuser que pour se défendre, et que dans tous les cas, s'il s'attaquait à une renommée jusqu'alors sans tache et qui avait toujours brillé du doux éclat de la vertu, il devait le faire dans des termes qui ne révoltassent point la conscience publique et surtout apporter dans son inattendu système de défense plus de preuves que d'imprécations. Rouletabille inclina la tête en signe qu'il avait compris et reprit la parole sur un ton doux et mesuré qu'il n'aurait jamais dû quitter. « Messieurs, dit-il, mon ami Sinclair me rappelait à l'instant qu'à l'heure du crime, 5h30, Madame Boulanger se trouvait avec lui, chez moi, dans mon salon. C'est bien cette coïncidence de l'heure du crime, sur laquelle tout le monde est d'accord maintenant, et de la présence de Madame Boulanger à mon domicile, qui, dans le moment que je cherchais le quatrième personnage nécessaire au drame tel que je le concevais après mes investigations, m'empêchait d'entreprendre celui de Madame Boulanger, me le barrait en quelque sorte. Et je me rappelais l'insistance avec laquelle, sans en avoir l'air, Madame Boulanger nous avait fait constater l'heure à ma pendule. Cela déjà ne me parut point naturel. D'après ce que m'avait dit mon ami Sinclair, c'était lui qui était arrivé le premier dans mon salon et il avait entendu Madame Boulanger sonner à la porte de l'appartement. Le domestique avait ouvert à la visiteuse dans la pièce où mon ami se trouvait. Sinclair ne l'avait pas quitté. En principe, je devais abandonner l'idée que Madame Boulanger aurait pu se créer un alibi en retardant ma pendule d'une demi-heure. Je dis « en principe », mais non « en fait ». Car en fait, je découvris que la chose avait été tout à fait possible. Une enquête auprès de mon domestique m'apprit que Madame Boulanger était venue chez moi 5 minutes avant l'arrivée de Sinclair, avait été introduite dans le salon, puis était sortie de chez moi en annonçant qu'elle allait revenir. Elle y revenait, en effet, y trouvait Sinclair, en ressortait et y remontait avec moi. Pourquoi cette insistance à revenir chez moi, à se faire voir chez moi? Je dis qu'une personne qui aurait eu intérêt à se créer un alibi n'aurait pas agi autrement. Rien de plus, mais tout de même. Depuis que je savais que Madame Boulanger s'était trouvée seule dans mon salon en face de ma pendule, l'heure ne me gênait plus. C'est dans ces conditions, messieurs, que je partis pour le Havre. Jusqu'alors, poussé par mon idée absolue de l'innocence, c'est-à-dire de la parfaite honnêteté de ma femme, innocence qui ne pouvait se présenter à mon esprit qu'à la condition que ma femme n'eût rien caché à Madame Boulanger de son rendez-vous avec le docteur à Passy, ce qui du coup faisait entrer le personnage de Madame Boulanger dans le drame. Jusqu'alors, dis-je, je n'avais qu'une conviction morale de l'intervention de Madame Boulanger, mais nullement intellectuelle, ni surtout matérielle. Je devais trouver bientôt ce qui me manquait encore. Ayant relevé les traces de Teodora Luigi, il me fallait déterminer son rôle dans cette affaire, d'après les traces même, enfin et surtout dans quelles conditions elle, qui se trouvait au Havre la veille du crime, en était partie pour accourir à Paris. C'est alors, messieurs, que je revis cette villa de la Falaise où s'était déroulé l'été précédent un drame qui avait été en quelque sorte le prélude de celui-ci et sur lequel vous ne savez encore rien. Ici, l'avocat général ayant esquissé un mouvement pour se lever, le président le devança dans ses interventions et dans ses intentions en déclarant « Le drame de cette adresse a fait l'objet d'une instruction qui est close et j'estime qu'il est inutile de reparler ici. » Aussitôt, en tant qu'avocat de Rouletabille, je protestais contre cette façon de restreindre les débats. Mais cette fois-ci, ce fut Rouletabille qui me calma. « Messieurs, dit-il, la présence en ces lieux de madame, il désignait Teodora Luigi, qui avait voulu m'y suivre pour vous aider à démêler ce criminel imbroglio, doit vous être un sûr garant qu'il n'y sera point prononcé de paroles gênantes pour qui que ce soit. L'ombre de Henri II d'Albany peut reposer en paix. Ce prince n'a été mêlé en rien au drame de la falaise. Ceci posé, il me sera permis de dire, sans m'arrêter bien entendu au système de l'accident qui n'a trompé personne, il me sera permis de dire que nul n'a rien su du drame, ni les magistrats qui ont cru le soupçonner, ni ma femme qui est arrivée sur les lieux quelques instants après les coups de feu, et qui a eu cependant les fausses confidences de Madame Boulanger sur son lit de douleur, ni Roland Boulanger lui-même, ni Teodora Luigi qui n'a rien vu et n'a pu qu'entendre les coups de revolver qui éclataient derrière une porte. Il n'y a que Madame qui connaît la vérité. Le doigt de Rouletabille montrait cette fois la statue qu'était devenue Madame Boulanger. « Madame et moi. Messieurs, lors de mon retour à Paris, l'automne précédent, après le drame de la falaise, j'avais déjà découvert que l'auteur du crime ne pouvait être Henri II d'Albany, pour cette raison, entre autres, que le revolver qui avait servi à frapper Madame Boulanger avait été acheté quelques jours auparavant chez un arburier du Havre par Roland Boulanger lui-même. » Et j'étais revenu avec cette idée que c'était peut-être Roland Boulanger qui avait frappé sa femme, laquelle, plus sublime que jamais, lui avait pardonné. Cependant, bien des points du drame restaient obscurs, et quand, après le drame de Passy, je retournais au Havre en portant dans la pensée une autre Thérèse Boulanger que celle qu'il avait habitée jusqu'alors, et aussi le souvenir de certaines scènes assez caractéristiques qui me prenaient leur signification qu'à la lueur de cette pensée nouvelle, je résolus de compléter mon enquête en même temps que je m'occupais de Teodora Luigi en ce qui concernait le second drame. J'eus la chance de tomber à Trouville sur le valet de chambre de Roland Boulanger, Bernard, qui était venu, sur l'ordre de Madame Boulanger, chercher quelques objets dans la villa de Deauville. J'étais déguisé, il ne me reconnut pas, et je mis la conversation sur le drame de la falaise. Il y avait une phrase qui me trottait dans la tête depuis que je l'avais entendue quelque temps après le drame, en traversant la villa de Deauville. Roland, boulanger, disait alors à ce Bernard: « Que voulez-vous, Bernard? Si ce revolver est perdu, tant pis. J'en serai quitte pour en acheter un autre, et laissez-moi tranquille avec cette histoire-là. » D'où j'en avais momentanément conclu que cette histoire de revolver gênait singulièrement Boulanger et le chargeait par conséquent. Or, de ma dernière conversation avec Bernard à Deauville, il résulta que c'était Roland Boulanger lui-même qui, le premier, s'était préoccupé de la disparition de cette arme et avait prié Bernard de la lui retrouver. Alors tout se trouvait retourné. Si Roland Boulanger avait tiré avec ce revolver sur sa femme, il n'avait aucun intérêt à attirer l'attention de quiconque et surtout de son valet sur sa disparition. Je continuais d'interroger Bernard avec méthode. Il s'agissait pour moi de savoir si Boulanger était parti ce jour-là pour cette adresse avec son revolver. Je me rappelais qu'il avait sauté à cheval et qu'il nous avait quittés sans autre cérémonie. Je demandai à Bernard s'il y avait au pantalon de cheval à son maître une poche pour le revolver. Il n'y en avait pas. Et le matin même, après le départ de son maître, Bernard avait enlevé de la poche du pantalon que Roland portait la veille le revolver qu'il avait mis dans le tiroir de la table de nuit. Et depuis, on ne retrouvait plus le revolver. Et qui donc pouvait avoir emporté le revolver de Roland Boulanger sur les lieux du drame? Qui, sinon la seule personne auprès de laquelle on l'a retrouvé? Revolver que l'on a vite caché car on a cru qu'il appartenait à Henri II. Qui, si ce n'est madame? Et encore le doigt terrible de Rouletabille sur madame Boulanger. Et je la défie bien de dire le contraire. Eh bien oui, c'est vrai, s'écria-t-elle. J'avais emporté ce revolver pour me frapper, et je m'en suis frappé par deux fois, c'est vrai. J'ai voulu mourir, mais n'était-ce pas mon droit? Ne l'avais-je pas assez gagné? Vous, madame, reprit froidement Rouletabille, au milieu d'une rumeur immense qui n'était certes pas entièrement hostile à celle qui l'accusait, vous, madame, vous aviez tout arrangé pour faire croire que votre mari vous avait assassiné. Misérable, j'adorais mon mari. Il y a des minutes où, dans le cœur d'une femme, répliqua sourdement Rouletabille, l'amour devient plus terrible que la haine et se confond avec elle bien singulièrement. Et vous avez connu ce moment-là, madame. Et je vais vous dire quand. Rappelez-vous certains soirs où, dans la villa de Deauville, je me heurtais presque à vous au coin d'un couloir. Je ne devais pas vous dire « rappelez-vous », car en réalité, je ne saurais prétendre que vous m'ayez aperçu, mais moi, je vous ai vu. Vous sortiez comme une furie de la chambre de votre mari. Vous étiez dans un grand désordre, dans un déshabillé magnifique. Vous aviez repris des habitudes de grande élégance. Quoi de plus naturel pour une femme aimante que de se refaire belle pour l'objet aimé? Oh, je vous jure que je n'en ai pas souri. Non, ce soir-là, en vous voyant sortir de la chambre de votre mari, j'en ai été épouvanté. J'ai été épouvanté parce qu'un grand voile qui couvrait mes yeux et que vous aviez mis sur nos yeux à tous a été déchiré. Une femme, par son attitude extérieure, touche à l'ange. Elle représente une si pure vertu qu'elle n'appartient plus à la terre. Elle le dit à qui veut l'entendre, elle le répète avec extase. Elle n'est plus qu'une pensée, qu'un cœur. Sa pensée comprend tout, son cœur pardonne tout. Roland, pour elle, a cessé d'être un homme. Que lui importe pourvu qu'il vive avec son cerveau? Nous l'avez-vous assez fait entendre, cette phrase? Eh bien, cette femme ment. Cette épouse extraterrestre, cette collaboratrice qui ne prétend connaître que l'œuvre immortelle à laquelle elle travaille à côté du génie, ce pur esprit, cette noble intelligence, cette divine organisation qui confond dans un même culte l'amour platonique et l'amour de la science, mais tout cela ment, tout cela râle de désespoir, parce qu'on ne l'embrasse plus qu'au bon lendemain de ses noces, et tout cela rugit sous son masque de céleste indifférence quand un sourire s'égare. Et tout cela se tue, c'est vrai. Après, monsieur, et tout cela se tue. C'est votre droit, vous l'avez dit. Mais là où vous dépassez votre droit, c'est lorsque vous venez chercher dans un ménage qui ne connaît que la paix et le bonheur, une victime pour la jeter au milieu de vos machinations ténébreuses. C'est lorsqu'au lendemain de cette nuit où vous étiez si inutilement paré, vous concevez ce projet abominable de vous tuer dans des conditions telles qu'on puisse croire que vous êtes tombé assassiné par votre époux. Ah, laissez-moi finir, madame, madame. C'est avec son revolver que vous allez vous frapper devant sa porte. En prenant soin de crier « Roland, assassin, assassin !» J'ai crié « Ah, l'assassin !» râla madame Boulanger. Mais pourquoi auriez-vous crié « Ah, l'assassin !» puisque personne ne vous assassinait? Je prouverai, quand vous le voudrez, que le prince Henri était déjà mort lorsque vous essayez de mourir. Mais vous vouliez mourir en perdant Roland. Et la preuve, madame, je vais vous la donner, irréfutable. Au lendemain de cette nuit qui avait transformé votre folie d'amour en folie de haine, vous écriviez à une de vos amies de Paris, à madame de Lens, une lettre qui la faisait accourir au Havre en apprenant 2 jours plus tard le drame. Dans cette lettre, vous lui disiez textuellement « Maintenant il me hait, j'ai lu cela dans ses yeux, il me voudrait morte. Attends-toi à quelque drame effroyable, moi je m'y attends et je suis prête. Si tu apprends ma mort, dis-toi bien que c'est lui qui m'a tué. » Mais vous n'en mourûtes point, et lorsque madame de Lens vous vit à sainte adresse, vous lui montrâtes votre époux à vos genoux. À cette heure-là, vous croyez l'avoir reconquis, et vous acceptiez la légende qui était déjà établie autour de vous quand vous rouvrîtes les yeux, la légende de la tentative d'assassinat par Henri II d'Albany. Quel silence, un silence affreux, qui attendait quelque chose de cette femme cramponnée à la barre, comme au bord d'un abîme, et ce quelque chose ne vint pas. Quant à Rouletabille, implacable, il reprit. Et maintenant, en voilà assez pour cette première histoire. Passons à la seconde. Je n'ai plus du reste que quelques mots à en dire. Quand je revins au Havre, j'étais sûr que c'était vous qui aviez tout fait à Passy comme à sainte adresse. Il ne me fallait plus que des preuves et je résolus de les acquérir en y mettant tout le temps nécessaire et en vous trompant comme vous aviez trompé tout le monde. Quelle victoire pour moi que le geste qui vous faisait apporter à la villa de Passy l'anneau d'esclavage que vous aviez trouvé à la villa de Sainte-Adresse. Quel aveu! Enfin, j'avais cette lettre signée Roland Boulanger, cette lettre qui appelait Théodora Luigi, cette lettre que les experts nient être de votre main. Elle ne pouvait être que de vous. Mensonge, invention, folie! Râla ardemment Madame Boulanger, qui ne regardait plus Rouletabille. Madame, j'ai la preuve ici que vous avez essayé maintes fois d'imiter l'écriture de votre mari. Et j'ai mieux que cela, j'ai ici recollé, reconstitué les essais successifs de cette lettre. Monsieur le Président, ouvrez cette enveloppe. Je vous jure que madame n'aura plus rien à dire. Et Rouletabille fixait madame Boulanger comme s'il voulait l'hypnotiser pendant que l'huissier passait une enveloppe au président. J'ai justement quelque chose à dire, monsieur le président, murmura madame Boulanger dans un souffle. Il est exact que j'ai essayé souvent d'imiter l'écriture de mon mari. C'est lui-même qui m'en avait prié pour que je réponde à ses nombreux correspondants en ses lieux et places, pour que je signe même pour lui. C'est tout ce que je voulais savoir, répliqua Rouletabille. Et maintenant, monsieur le président, vous pouvez arracher l'enveloppe. Il n'y a rien dedans. Quelle stupeur! Et puis, malgré la gravité de l'événement, il y eut des rires. Lagardère n'est pas mort, fit le président. Rouletabille non plus, ajouta froidement mon avis. Et maintenant, plus qu'un mot. La preuve absolue de la présence de Madame Boulanger dans la villa de Passy à l'heure du crime est la preuve de son crime. Quand elle eut fini d'assassiner, Madame Boulanger descendit dans la cuisine et elle but, car elle avait soif. Elle but de l'eau fraîche du robinet, de la bonne eau glacée qu'elle faisait couler dans un verre pris dans l'armoire à côté d'elle. Seulement, Madame Boulanger a eu tort de ne pas replacer exactement ce verre comme les autres, car ce verre-là, je l'ai fait examiner, moi, par le service Bertillon. J'ai là en effet quelques amis qui ont bien voulu m'aider de leurs expériences et qui apporteront ici le résultat de leur examen. Ils ont relevé sur le verre la marque à laquelle nul ne peut plus se tromper, la marque des doigts de l'assassin. « Mais c'est faux !» s'écria la malheureuse femme dans un dernier sursaut de défense. « Mais pourquoi avez-vous dit c'est faux ? Parce que vous aviez gardé vos gants de fil ? Mais votre gant a laissé son empreinte sur le verre. Il vous dénonce plus qu'un aveu. Madame Boulanger, interrompit le président, est donc la seule à porter des gants de fil. Non, mais elle en portait souvent. Elle en portait ce jour-là, qui était bien reconnaissable, car il avait une couture au pouce que nous retrouverons sur le verre. Du reste, ce gant, le voilà. Vous avez eu tort, madame, de le perdre chez le docteur Charles en sortant de chez moi. » Et Rouletabille sortit le gant d'un petit paquet qu'il tira de la poche de son gilet. « Cette fois, il y est, dit-il, ce n'est pas comme les papiers de tout à l'heure. » On entendit du côté de madame Boulanger une sorte de respiration rauque, un gémissement lointain et profond, et puis plus rien. Elle s'était redressée devant la barre, plus haute que jamais, comme si elle allait prendre son élan. « Savez-vous, madame, prononça le président, que tout cela est au-dessus de l'horrible ?»« Tout cela ?» reprit-elle une voix que nous ne reconnûmes plus et qui paraissait déjà appartenir à l'autre monde. « Tout cela n'est pas au-dessus de l'amour. » et elle s'effondra comme un bloc. Madame Roland Boulanger était morte. On reconnut le soir même qu'elle s'était empoisonnée avec de l'acide prussique. Rouletabille ne fut nullement ému de cette mort qui affola l'auditoire. Tandis que l'on se précipitait de toutes parts et que l'audience était levée, il me confia avec un sang-froid incroyable: « Le plus beau, c'est que le gant était faux. Je l'ai acheté ce matin et c'est moi qui ai fait la couture. Ce qui est vrai, c'est l'empreinte du gant de fil et de la couture au pouce sur le verre. Donc, je ne risque rien en fabriquant la preuve qui me manquait. Cette terrible femme inventait des preuves contre Théodora Luigi. Moi, je me suis servi pour la combattre des mêmes armes qu'elle. Seulement, mes preuves à moi étaient plus fausses que les siennes. Voilà peut-être pourquoi elles ont si bien réussi. » Je termine ici la narration de ce que l'on a appelé le crime de Rouletabille. Dans cette affaire, il ne fait point de doute que matériellement, le célèbre reporter a établi toute la vérité des faits, mais la vérité morale, l'a-t-il eue tout entière? Qui la connaîtra jamais maintenant qu'Ivana est morte? C'était une honnête femme, elle est morte honnête femme au sens bourgeois du mot. Mais c'était un grand cœur, un cœur magnifique, à y mettre Rouletabille et le monde. C'est tout ce qu'on peut y dire. Et le sphinx reste debout, au seuil des tombeaux, avec son profil de femme.